Depuis que Jésus habite dans mon cœur, depuis que Jésus habite dans mon cœur, j'ai la paix et la joie. Oh, quel bonheur aujourd'hui depuis que Jésus habite dans mon cœur. Et ce cantique va jusqu'au bout et il dit, et la couronne céleste attend le combattant depuis que Jésus habite dans mon cœur. Après le pèlerinage là-haut, une récompense éternelle depuis que Jésus habite dans mon cœur. Eh bien, frères et sœurs, pour que cela se produise, il faut que quelque chose se soit passé dans la vie de l'homme. Et voilà qu'un homme vint au Seigneur dans la nuit. Un grand homme, je voudrais le lire dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème, membre du haut conseil des Juifs. Celui-ci vint trouver Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, ou bien alors maître, nous savons que tu es venu de Dieu en tant que docteur, car personne ne peut faire des miracles comme ceux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répondit, « comment un homme peut-il naître s'il est un vieillard? Peut-il entrer pour la seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends bien son sifflement, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui répondit par cette question, « Comment cela est-il possible ?» Jésus lui répondit, « Tu es enseignant, tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne comprends pas cela. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui croient en lui aient en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré de lui seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils engendré de Dieu seul. Or, le jugement consiste en ce que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Parce que toutes leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait des choses vaines est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que toutes ses actions ne soient mises à nu. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jusqu'ici, cette merveilleuse parole de Dieu. Cette merveilleuse et sainte parole de Dieu. Je ne sais pas mais ce que vous en pensez, mais c'est une parole glorieuse. C'est la parole de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons comment un Nicodème est venu au Seigneur pour recevoir la vie éternelle. Et il n'y a qu'un seul chemin. Et il n'y a qu'un seul chemin qui passe par Golgotha. Et le Seigneur l'a indiqué, même selon Nombre 21, verset 8 et 9, comme Moïse a élevé un serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Oui, voyez comme c'est merveilleux. Et c'est ainsi que nous pouvons recevoir la vie éternelle ou le salut. Nous savons, c'est ainsi que nous pouvons être sauvés. Si nous lisons dans Nombre 21, verset 8, ce qui est écrit, Nombre 21, verset 8, il est dit ici, l'Éternel lui dit, fais-toi une image de serpent et attache-la à une perche. Celui qui sera mordu et la regardera aura la vie sauve. Moïse fabriqua alors un serpent d'airain en cuivre et le fixa au sommet d'une perche. Si donc un serpent avait mordu quelqu'un et qu'il regardait le serpent d'airain, il avait la vie sauve. Chers frères et sœurs, il y avait ici plus qu'un serpent d'airain. Ici, le Fils de Dieu était élevé. Et c'est là que nous voyons celui qui regarde avec foi à Jésus peut aujourd'hui encore être racheté, libéré, sauvé et sauvé. Aujourd'hui encore, la grâce est là. En ces jours-là, un grand enseignant est venu, l'enseignant d'Israël, pas un enseignant, mais l'enseignant d'Israël au Seigneur. Et est venu au Seigneur, et pas seulement un enseignant, mais l'enseignant. Et le Seigneur lui a dit les choses avec des mots très simples. Il ne pouvait pas comprendre. Vous savez, ce n'est que grâce. Si Dieu donne à un homme des yeux ouverts et une compréhension telle qu'on peut croire en son Fils seul engendré de lui, en Jésus-Christ, en sa mort et en ses souffrances. Et nous croyons qu'il y est allé pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, seul engendré de lui, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Loué et remercié soit saint nom, glorieux. Maintenant, nous sommes à nouveau reconnaissants, frères et sœurs, pour cette heure de grâce. Et nous sommes déjà à nouveau reconnaissants pour sa précieuse et sainte parole. Et je pense que nous avons déjà de nouveau des raisons d'offrir à notre Seigneur l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration. Car nous savons ce qu'il a fait pour nous. Oh, quelle merveille Dieu a gracieusement accompli en moi. Quelle merveille! C'est ce qu'a exprimé ce cantique. Et je voudrais dire que nous devons pouvoir dire cela aussi et que nous pouvons le dire en toute certitude et en toute conviction. Oh, quelle merveille Dieu a accompli en moi avec miséricorde. Oui, gloire à son nom glorieux. Et là, nous ne pouvons qu'exalter son nom, le louer et le glorifier. Car il est devenu pour nous tout en tous. Levons-nous et adorons-le. Nous te remercions pour ta sainte et ta précieuse parole. Nous te remercions pour chaque cantique que nous avons pu chanter. Seigneur, quelle merveille tu as accompli aussi à moi. C'est pourquoi nous ne cesserons pas de chanter ton nom. Toi, le Très-Haut, et de te louer, car tu as fait de grandes choses pour nous tous et en nous tous. Entre reçois la louange, reçois la reconnaissance et l'adoration maintenant, en cette heure du soir. Et bénis mes frères et Seigneur, et continue à bénir ta parole qu'ils vont nous apporter. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Nous avons déjà entendu tant de paroles de Dieu. Si nous l'avons reçu, nous pourrions déjà remercier et adorer pour la parole du Seigneur. Nous avons d'ailleurs souligné ces derniers temps que tous ne comprenaient pas la manière de parler du Seigneur et que Dieu voulait nous faire la grâce de la comprendre. Pas par nous, mais parce qu'il nous l'a dit, qu'il nous a, c'est pour cela qu'il nous a ouvert son, le cœur et l'oreille. Il nous a ouvert le cœur et l'oreille. Cela ne dépendait pas de l'homme. Beaucoup ont entendu le Seigneur parler et peu l'ont compris. C'était ceux qui étaient destinés à recevoir ces paroles pour qu'elles portent du fruit. Chaque parole qui a été lue, on pourrait s'y attarder et y consacrer plus de temps. Je voudrais m'arrêter un peu sur Romains 12. Les deux autres paroles sont très importantes, mais ici, il me semble qu'une parole est adressée à l'Église, c'est-à-dire à la tâche de l'Église. Et nous savons que le Seigneur parle personnellement, comme la conversation avec Nicodème, un entretien personnel qui doit le conduire au salut, à la délivrance, à ce que le Seigneur a préparé pour chacun. Ensuite, dans la parole de l'Apocalypse, le Seigneur a de nouveau parlé à un individu, à Jean, et lui a fait part de ce qui devait être apporté plus tard aux églises. Mais ici, dans Romains, au 12e chapitre, c'est à l'Église qu'il s'adresse. Il ne s'agit pas seulement d'un individu, mais de nous tous. Nous sommes tous interpellés et je ne veux pas relire tous les versets. La pensée principale est de Romains 12, verset 2. Afin d'acquérir un jugement sur ce qu'est la volonté de Dieu, à savoir celle qui est bonne, agréable et parfaite. Et nous l'avons lu dans le seul verset de l'évangile de Jean, chapitre 8. Et le Seigneur leur a dit, dans Jean 8, verset 43, « Vous ne comprenez pas la nature de mes paroles, que je vous adresse, parce que vous n'êtes pas prêts à écouter les paroles que je vous adresse. » Ils avaient leurs pensées dans leur cœur pendant que le Seigneur parlait et ils n'étaient pas prêts à écouter, mais pendant qu'ils parlaient, eux, ils avaient déjà forgé leurs propres réponses, leurs propres opinions, sans tenir compte de ce qu'il leur disait. Or, il est dit ici, si merveilleusement, dans Romains 12, verset 2, afin que vous acquériez un jugement sûr, c'est-à-dire non pas un concept flou ou seulement une supposition ou certaine ou incertaine, mais d'acquérir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu, à savoir celle qui est bonne, agréable et parfaite devant Dieu. Donc, la certitude d'acquérir la certitude d'un jugement absolu, d'un jugement certain, en ce qui concerne ce qui est bon, agréable et parfait. Et s'il y avait jamais eu un temps où cette parole devait être prise au sérieux, c'est maintenant. Que nous ayons un jugement sûr. Et un jugement certain ne peut être ton jugement et le mien. Il faut que ce soit le jugement de Dieu dans sa parole. Ce doit être sa parole qui juge les choses en ce temps. Ça doit être la parole de Dieu qui juge ce qui se passe dans ce temps. Ce n'est que par sa parole que nous parviendrons, nous aussi, à ce jugement de Dieu qui est sûr. Car, sur tout ce qui se passe, car ta parole et la mienne sont incertaines. Ton jugement et le mien sont incertains, mais la parole de Dieu est certaine. Et selon la parole de Dieu, nous devons pouvoir nous former un jugement sûr, certain et absolu sur ce qu'est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu en toutes choses. Alors, si nous n'avions rien entendu d'autre ce soir que ce seul verset, et si ce verset pouvait nous toucher le cœur et devenir pour nous un sujet de prière au point de dire, Seigneur, tu l'exiges dans ta parole. Aide-nous à répondre à cette exigence. Je voudrais peut-être lire le 4e verset, peut-être Romains 12, maintenant le verset 4. En effet, de même que nous avons dans un même corps plusieurs membres, mais que les membres n'ont pas tous le même service. De même, malgré notre diversité, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Au verset 6, mais de telle sorte que nous possédons des dons de la grâce. Nous lisons cette parole et nous nous posons alors la question, s'applique-t-elle à nous? Sommes-nous le corps du Seigneur? Sommes-nous des membres? Avons-nous des dons de l'Esprit de Dieu? Pouvons-nous rendre ce service? Pouvons-nous rendre des services? Pouvons-nous servir dans l'Église, ou avons-nous ici un enseignement théorique qui, d'une certaine manière, n'est pas en accord avec la pratique et la réalité? Paul dit dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, que nous avons été baptisés pour former un seul corps, par un seul esprit. Et frère Branham l'a expliqué très très clairement, non pas dans une, mais dans de nombreuses prédications. Il dit, par la nouvelle naissance, nous sommes purifiés en tant que récipients. Le vase est purifié devant Dieu. Mais ce n'est pas le remplissage par le Saint-Esprit de ce vase que le vase est mis au service. C'est quand le vase purifié est rempli de Saint-Esprit qu'il est mis au service. Un récipient, un vase, est merveilleux, mais s'il n'est pas mis au service, même le plus beau des récipients ne sert à rien. Pourquoi? Car il ne remplit aucune fonction, aucun service. On peut alors le mettre quelque part comme objet d'exposition et les gens peuvent alors l'admirer. Mais Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas que nous soyons admirés. Dieu veut que nous soyons des récipients qu'il peut remplir de son esprit et mettre en service. Car, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, elle doit parler à mon cœur et à ton cœur. Ici, ce n'est pas le frère Rousse, ou bien le frère Rousse, ou bien le frère Franck, ou bien aucun autre frère qui nous parle, ou bien qui vous parle. Mais c'est la parole de Dieu qui s'adresse à moi, à toi et à nous tous. Et nous devons faire face à cette parole de Dieu. Il relit Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de vos sens afin d'acquérir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu, à savoir celle qui est bonne, agréable et parfaite. Et ensuite, chacun doit être utilisé par Dieu selon la mesure de la foi, comme cela lui a été attribué. Puis vient le verset que nous avons déjà lu, verset 4. En effet, de même que nous avons dans un même corps plusieurs membres, mais que les membres n'ont pas tous le même service, de même, malgré notre diversité, le verset 5 de Romains 12, de même, malgré notre diversité, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns par rapport aux autres. Mais de telle sorte que nous possédons des dons de la grâce qui varient selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui donc qui possède le don de prophétie demeure en accord avec la mesure de la foi. Peu importe le don, le ministère, le service, tout ce qui nous a été confié, il ne peut être accompli que dans la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et sans la foi, nous ne pouvons pas accomplir de service. Mais l'accent est mis ici sur le fait que nous devons, sur le fait que nous devons devenir un corps fonctionnel du Seigneur. Un corps qui fonctionne, un corps composé de nombreux membres, mais que Dieu peut utiliser. Un organisme vivant que Dieu doit utiliser pour sa glorification ici sur cette terre. Et nous savons que le ministère de Jésus-Christ doit se poursuivre. Et il n'est pas possible que nous ne considérions ici, année après année, que la parole, que nous la considérions seulement. Cela doit devenir une réalité. Dieu doit pouvoir se manifester. Ce que nous lisons ici, ce que nous contemplons et ce que Dieu a promis doit se répéter. Il ne suffit pas de considérer et de visualiser toutes les choses que Dieu a faites dans le passé. Nous devons le faire, c'est vrai, pour savoir ce qu'il veut faire aujourd'hui. Mais on ne peut pas s'en tenir à la contemplation et que nous disions, Seigneur, la chose que tu as faite à l'époque était merveilleuse. Ce n'est pas le sens de la prédication. Le sens de la proclamation de la parole est que la foi puisse être aujourd'hui opéré, afin que Dieu puisse aujourd'hui répéter ce qu'il a fait autrefois. Et avant cela, nous ne serons pas satisfaits. Avant cela, nous ne trouverons pas le repos en Dieu tant que nous n'aurons pas vu de nos propres yeux la répétition de ce que nous lisons dans les Saintes Écritures. Si c'était nos paroles, elles seraient emportées par le vent et ce serait fini. Mais la parole de Dieu n'est pas emportée par le vent. La parole de Dieu est résumée et placée dans le cœur des croyants. Que veut nous dire le Seigneur aujourd'hui par cette parole? Que veut-il te faire comprendre, que veut-il me faire comprendre par cette parole? Premièrement, que nous trouvions grâce devant lui, que nous vivions le renouvellement de nos sens et de notre cœur par une nouvelle naissance afin d'avoir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu maintenant. Maintenant. Dans ce temps, la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, bien sûr, tout le reste devra être ajouté par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre voie. Nous ne pouvons passer à côté d'aucune des expériences que Dieu a promises à l'Église. Celui qui passe à côté passera à côté du but. Dieu veut faire à la fin ce qu'il a fait au commencement. Il veut se manifester. Il veut des vases qu'il a pris. Et il dit oui dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit soit durable. Quand et comment un fruit durable peut-il venir? Seulement lorsque Dieu l'a produit. Ton fruit et le mien ne seront pas durables. Mais le fruit de l'Esprit, le fruit qu'il peut produire, sera durable. En effet, de même que nous avons plusieurs membres, il relit le verset 4. En effet, de même que nous avons dans un même corps plusieurs membres, mais que les membres n'ont pas tous le même service. De même, le verset 5, Romains 12, malgré notre diversité, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns par rapport aux autres. Mais de telle sorte que nous possédons des dons de la grâce. Des membres qui possèdent des dons de grâce. Et je l'ai souvent dit, de même que Christ est la tête vivante du corps, de même dans le corps de Jésus-Christ, des membres vivants sont imprégnés et remplis et revêtus de la puissance de Dieu et ont été ainsi placés par Dieu pour une certaine tâche. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand que nous imaginions. Nous n'avons pas besoin d'imaginer quelque chose de grand ou de petit. La seule chose que nous portons en nous, c'est que Dieu, par grâce, veuille venir à son droit et que nous voyons sa parole confirmée comme vraie au milieu de nous. Que tu la vois confirmée comme vraie dans ta propre vie et que je la vois confirmée comme vraie dans ma propre vie. Que la parole de Dieu ne soit pas seulement écrite ici comme vraie, mais qu'elle puisse être confirmée comme vraie dans ta vie et dans ma vie par la grâce de Dieu. Puisse Dieu mettre dans notre cœur à tous un désir aussi profond de lui demander simplement de faire de nous ce qu'il a dans sa pensée, ce qu'il a eu dans sa pensée lorsqu'il a eu en tête l'Église qu'il a rachetée sur la croix à Golgotha, avec toutes ses tâches et quoi qu'il en soit. Nous ne pouvons pas dire au Seigneur, fais ceci et fais cela. Il n'est pas là pour que nous lui donnions des ordres. Mais nous pouvons venir à lui dans la foi, dans la prière, et lui apporter sa propre parole en disant, Seigneur, tu nous l'as promis. Tu nous as fait savoir ce que tu veux faire. Rends-nous capables de nous mettre à ta disposition. Donne-nous la grâce d'avoir l'attitude nécessaire pour nous présenter devant ta face dans la prière. De telle sorte que nos prières parviennent jusqu'à lui et que nous comprenions la nature de son discours, de sa parole. Si nous l'avons comprise ce soir, si nous avons compris sa parole ce soir, ce qu'il a voulu nous dire à toi et à moi par grâce à travers sa parole, nous voulons le lui présenter. Nous voulons lui présenter ces choses dans la prière et lui demander de l'accomplir pour nous par grâce. Et cela dans la foi, non dans l'incrédulité, non dans l'abattement, mais vraiment dans la foi que Dieu se tient à sa parole et qu'il vienne sur elle pour l'accomplir sur ceux qui l'ont reçu dans la foi. Dieu prend plaisir à réaliser ses promesses dans ta vie et dans la mienne. Il prend plaisir à ça. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Je pense que nous pouvons maintenant prier, levons-nous pour cela, pour ces paroles que nous avons pu lire, que nous avons entendues ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir parlé en tout temps avec les individus et aussi avec l'Église, oh Dieu. Seigneur, nous te remercions d'avoir aussi parlé avec nous en ces derniers jours. Et nous te donnons à toi et à toi seul l'honneur, la louange, et la gloire et l'adoration. Mais Seigneur, cela ne suffit pas encore. Nous voulons encore plus recevoir de toi, encore plus de toi, encore plus du Sauveur, jusqu'à la fin, oh Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons transféré dans la maison de ton, dans la maison du Père. Seigneur, si telle est ta volonté, tu peux te manifester puissamment. Nous l'attendons. Non pas que nous nous contentions de proclamer ta parole ou alors de l'écouter, mais que nous fassions aussi l'expérience personnelle de ce qui a été prêché, Seigneur. Que nous fassions des expériences avec toi personnelles. Ô Seigneur, accorde-le à nous tous. Seigneur, nous sois miséricordieux en ces dernières heures, en ces derniers instants où nous sommes encore ici. Ô Seigneur, merci Seigneur de nous permettre d'avoir ta parole. Seigneur, c'est si précieux, c'est si riche. Seigneur, cette table que tu nous dresses sans cesse, ô Seigneur, par grâce. Et ainsi, Seigneur, nous nous abandonnons encore entre tes mains, ô Père, dans tes mains d'amour, ô Père. Seigneur, tu veux nous garder dans tes mains protectrices sur nous, Seigneur. Garde-les étendus sur nous, Seigneur, et nous préserve-nous de tout malheur et dommage. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.